Le journal de la mi-journée avec Bruno Duville.
Bonjour, bonjour Didier, bonjour à tous et merci à vous d'écouter France Inter. Vous êtes les bienvenus dans ce journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Des familles coréennes, nord et sud, se sont retrouvées ce matin. Des personnes très âgées, endimanchées, émues aux larmes. Après des décennies de séparation, quelques heures pour s'embrasser. Récit dans un instant. Un malade marche pour la première fois depuis longtemps sans sa perfusion. La Grèce, autorisée à emprunter seule sur les marchés à partir d'aujourd'hui, elle tourne la page des plans d'aide et de l'austérité. Sortie de crise, vraiment, nous verrons cela avec notre invitée Thomaïs Papayoannou. Elle est correspondante de la télévision publique grecque à Paris. L'accusatrice accusée, l'actrice italienne Asia Argento, l'une des pionnières du mouvement MeToo contre le harcèlement sexuel, est à son tour accusée de harcèlement. La lutte contre la cigarette, du porte-monnaie au slip de bain, nouvelle augmentation des prix aujourd'hui et les plages interdites aux fumeurs sont de plus en plus nombreuses. Aubervilliers, en banlieue parisienne, nouvel incendie, 3 semaines après la mort d'une maman et ses 3 enfants. Le bilan est moins dramatique, mais tout de même, 7 personnes sérieusement blessées. Dans ce journal encore, la spécialiste des questions scientifiques à France Inter, Sophie Becherel, sera avec nous. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Sophie, du nouveau sur les relations entre les hommes et les robots.
Les perçoit-on comme des objets ou des êtres sociaux? De nouvelles études montrent que les robots peuvent augmenter la capacité d'attention quand ils ne se transforment pas tout simplement en gourous.
On voit cela tout à l'heure. Le football, l'OM battu par un petit hier soir 3-1 pour Nîmes. Colère de l'entraîneur marseillais Rudy Garcia.
Bien longtemps qu'on n'a pas été aussi mauvais surtout. Qu'on a fait un match sans comme celui-là.
En tennis, à une semaine de l'US Open, Djokovic en grande forme, il gagne le tournoi de Cincinnati. Et puis la météo, on parlait de Marseille et Nîmes, il y fait 34, 35 degrés aujourd'hui. Le temps est beau et chaud au sud, c'est plus mitigé au nord, Elodie Calac.
Exactement, on trouve le soleil au sud, sur le Jura, sur l'Alsace aussi, plus de nuages au nord, d'ailleurs très nombreux sur la Bretagne, le Cotentin, Champagne-Ardennes. Température estivale, 22 degrés à Brest, 28 à Paris, 32 à Lyon, à Agen et 35, vous l'avez dit, à Nîmes.
Les détails à la fin du journal et bon courage si vous êtes de ceux qui reprennent le travail aujourd'hui. C'est le 13h, c'est parti. Une page d'histoire faite de jolies larmes et d'embrassades s'est tournée ce matin. Depuis les années 50 et la guerre de Corée, des millions de personnes ont été séparées de leur famille, déchirées entre nord et sud. Et bien ces dernières heures, une poignée, quelques dizaines ont pu serrer leurs proches contre eux. Une preuve de plus que le climat se détend dans la péninsule. 14 autocars des Sud-Coréens sont montés au nord. Frédéric Ojardias.
Ce sont des images très fortes que diffusent en boucle les télévisions sud-coréennes, comme celle de Madame Lee Kum-sum, 92 ans, qui embrasse et refuse de lâcher son fils nord-coréen. La dernière fois qu'elle l'avait vu, il avait 4 ans, elle était sans nouvelles de lui depuis 7 décennies. Madame Han Shin-ja, 99 ans, a elle retrouvé ses 2 filles laissées au nord au début de la guerre. D'autres ont rencontré pour la première fois un frère, un neveu ou un cousin. Toutes ces personnes très âgées, endimanchées, pleurent en se tenant la main. Certaines ont amené de vieilles photos ou de vieux papiers d'identité. Ces retrouvailles se déroulent dans la salle de réception d'un hôtel en Corée du Nord. Aucune intimité, les familles sont entourées de plusieurs caméras de télévision sud-coréenne. À part le déjeuner de demain, toutes les rencontres prévues ont lieu en public et sont surveillées de très près. Pyongyang interdit ensuite tout échange de lettres ou de coups de fil. Ces familles, enfin réunies après des décennies d'attente, ne pourront sans doute jamais reprendre contact. Séoul, Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter.
Encore une image que nous donne l'agence France Presse, cet homme de 101 ans qui retrouve sa belle-fille et sa petite-fille qui vivent au nord. « J'ai tout acheté, dit-il, parce que ce sera ma dernière fois. » Il montre les cadeaux qu'il a apportés. Des habits, des sous-vêtements, 30 paires de chaussures, des brosses à dents, du dentifrice et 20 cuillères en inox. Doit-on parler d'une actualité heureuse également en Grèce? La Grèce sort-elle de la crise? Nous poserons la question dans un instant à notre invité. En tout cas, au moins symboliquement, ce lundi 20 août est une journée importante. Pour la première fois depuis plus de 8 ans, la Grèce est autorisée à emprunter seule sur les marchés. Fini les plans d'aide, plus de 270 milliards d'euros distribués depuis 2010. Le temps de l'austérité est terminé, pas celui des réformes, résume le commissaire européen Pierre Moscovici. Il était ce matin l'invité de France Inter, vous pouvez le réécouter sur franceinter.fr. Pour la Grèce, 8 ans de purge, elle a perdu un quart de sa richesse, mais l'activité, vaille que vaille, l'activité économique reprend enfin. Quel regard les jeunes Grecs portent-ils sur le chapitre qui semble se clore? L'envoyé spécial de France Inter à Athènes est Isabelle Raymond.
À 21 ans, Harris est un jeune homme très sérieux. Barbe bien taillée, chemise repassée, l'étudiant est inscrit en histoire à l'université d'Athènes depuis 3 ans et décrit des études chaotiques.
In a Greek university, every student has free books.
En Grèce, à l'université, les livres sont gratuits pour les étudiants. Et c'est resté le cas malgré la crise. Et la plupart des programmes d'archéologie et de recherche d'archives ont été maintenus malgré le manque de moyens. Mais ma scolarité a tout de même été compliquée jusqu'à présent. Je comprends que ce soit difficile pour les professeurs de rester motivés alors que leur salaire a beaucoup diminué. Ils étaient souvent en grève et les étudiants ont bloqué plusieurs fois les examens pour protester contre les mesures d'austérité.
Harris hésite encore à faire sa vie ici, en Grèce, car les jeunes continuent de payer le prix fort. Le taux de chômage des 15-24 ans flirte avec les 40%, le double du reste de la population. Orestis, lui, a été déclaré comme stagiaire à 25 ans et un diplôme de communication en poche.
Pendant un an, j'ai travaillé 6 heures par jour pour 300 euros par mois. Dans cette entreprise, on nous disait qu'on ne trouverait rien de mieux payé, qu'on avait bien de la chance d'avoir un travail stable. Et d'autres amis sont tombés sur des entreprises similaires qui utilisent la même stratégie et qui profitent de la crise pour sous-payer leurs salariés.
Aujourd'hui même, Orestis doit passer un premier entretien pour un job à plein temps, déclaré. Au téléphone, il n'a pas osé demander quel était le salaire proposé.
En ligne avec nous, Thomaïs Papayoannou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante en France de la télévision publique grecque, mais vous êtes en Grèce en ce moment. Qu'est-ce qu'on dit autour de vous à propos de cette journée? Est-ce que c'est vu comme une journée importante et une journée heureuse?
Heureusement, importante peut-être pour certains, parce que c'est plutôt symbolique qu'essentielle. On sait que les mesures de sauvetage du programme vont continuer, c'est-à-dire les réformes et bien sûr toutes les mesures de coupures budgétaires continueront. Les programmes continuera officieusement jusqu'à 20 032, ça tout le monde le sait,
et
à partir de janvier.
Ouais.
32, absolument, ouais. Et janvier 2019, on aura une énième hausse d'impôts, une énième coupure des retraites. Donc, le programme continuera comme c'était rien n'était. Et surtout, la renégociation ou un allègement de la dette n'aura pas lieu avant 20 032, comme je vous ai dit.
Est-ce que vous parleriez de sortie de crise, de sortie de l'austérité? Pas du tout, manifestement, mais un tout petit peu de sortie de crise tout de même.
La crise en Grèce a pris une forme chronique, donc on ne peut pas dire qu'on sort de la crise puisque les gens vivent cette crise au quotidien. Et l'austérité durera jusqu'à 20 060 à peu près.
2060.
Parce que c'est là où que c'est là où on aura la fin de paiement de la dette si finalement la Grèce va payer sa dette. Et malheureusement, la dette n'a pas été allégée. Elle était juste un petit peu...
Il y a eu quelques accords d'allègement au fil des années tout de même.
C'est un moratorium quelque part de paiement jusqu'à 20 032 et surtout il y aura un paiement immense après et à plus des intérêts bien sûr.
Reprise économique ou pas, Thomaïs Papayoannou? Est-ce qu'il y a une reprise économique? Vous la voyez
pas. Reprise économique, non, parce que comme votre correspondante a dit, il y a 20%, un quart plutôt de son PIB a été perdu. Le temps qu'on arrive à des taux normaux de croissance, déjà même la Troïka n'est pas très optimiste vis-à-vis de la croissance du pays. Hein.
Une dernière question sur la figure d'Alexis Tsipras. Au fond, c'est le Premier ministre toujours en poste. Il y a la classe politique grecque a été totalement modifiée et chamboulée au fil des années. Vous diriez quoi? Qu'il a réussi son pari? Qu'il a trahi ses électeurs?
Certainement, il y a une trahison. Hein. Vous vous souvenez, le référendum raté de 2015, mais bien sûr, on aura les élections en 2019. C'est une année électorale totale, européenne et nationale pour la Grèce. On verra dans quel état d'esprit seront à ce moment-là les électeurs grecs. Mmh. Il y a une trahison, certes, mais en même temps, vis-à-vis de l'opposition qui est toujours la même. C'est-à-dire, il y a certaines familles politiques grecques qui datent de début du XXe siècle, sont toujours là. Mmh. Le chef de l'opposition est Kyriakos Mitsotakis, de la famille Mitsotakis. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne va pas voter le passé. Peut-être que Tsipras nous assure un petit peu un filet de sécurité sociale, ce qui est essentiel pour beaucoup de gens qui sont extrêmement démunis actuellement. Donc, on va voir en 2019.
Merci beaucoup, Thomaïs Papayoannou, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous pouvez réécouter sur franceinter.fr un autre point de vue, celui de Pierre Moscovici, le commissaire européen qui était notre invité ce matin. Et sur notre site internet également, la Grèce n'est pas le seul point noir de la zone euro. Un zoom sur les vulnérabilités globalement de l'économie européenne. Une ligne de plus à la longue liste des attentats commis par des terroristes revendiquant de l'islam. Un homme de 29 ans armé d'un couteau a essayé de s'en prendre aux policiers d'un commissariat près de Barcelone en criant « Allah Akbar » très tôt ce matin. L'homme est un ressortissant algérien. Les faits se sont déroulés à Cornellà del Llobregat où il habite. Il a été tué. Elle avait été l'une des premières à briser le tabou, à rompre le silence. Accusé de viol, le producteur de cinéma Harvey Weinstein, l'actrice italienne Asia Argento est l'une des figures de proue du mouvement MeToo, cette vaste révolte sur le net, dans le monde du cinéma et au-delà contre les abus sexuels. Eh bien voilà, l'accusatrice accusée à son tour. Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Selon le New York Times, Asia Argento aurait passé un deal avec un acteur qui affirmait avoir été agressé sexuellement par elle-même.
Il s'appelle Jimmy Bennett. Cet acteur et musicien de rock assure avoir été agressé sexuellement donc par Asia Argento. C'était en 2013 dans une chambre d'hôtel en Californie. À l'époque des faits, le jeune homme n'avait que 17 ans, sachant que la loi californienne fixe à 18 ans l'âge légal du consentement à une relation sexuelle. D'après ses avocats, Jimmy Bennett a été traumatisé par cette agression. Asia Argento aurait acheté son silence en lui versant 380 000 dollars selon un accord signé en avril dernier, soit un mois seulement avant le Festival de Cannes où, vous vous en souvenez peut-être, l'actrice italienne avait tenu un discours poignant contre les violences sexuelles.
En 1997, j'ai été violée par Harvey Weinstein ici même à Cannes. J'avais 21 ans.
I want to make a prediction.
Je souhaite prédire
Harvey
quelque
Weinstein
chose.
Will never be welcomed here
Weinstein
ever again.
Ne sera jamais plus le bienvenu ici.
Aujourd'hui, les révélations du New York Times sont une immense surprise, reconnaît Raphaël Rémy-Leleu, la porte-parole de l'association Oser le Féminisme.
Concernant la personnalité d'Asia Argento et sa légitimité à parler contre les agressions sexistes et sexuelles, c'est bien sûr terrible et totalement incompréhensible et antinomique de continuer une telle campagne de sa part s'il est avéré qu'elle a agressé sexuellement un jeune homme mineur.
Mais attention, cela ne remet pas en cause le mouvement MeToo, explique Raphaël Rémy-Leleu. Cette affaire ne doit pas occulter notre combat, dit-elle, contre les violences sexuelles envers les femmes.
Et Harvey Weinstein est inculpé pour viol, notamment aux États-Unis depuis moins d'un an. Près d'une centaine de femmes l'ont accusé d'abus sexuels. Dans l'actualité, encore le scandale de pédophilie en Pennsylvanie. Plus de 1000 enfants potentiellement concernés, des centaines de prêtres. Et ce matin, les mots du pape à propos de ce scandale, il condamne avec force ce qu'il appelle des atrocités. Quand Donald Trump ordonne, les plus grandes entreprises européennes sont obligées de payer. Selon Téhéran, Total renonce officiellement à ses projets d'investissement de plusieurs milliards de dollars en Iran après le rétablissement des sanctions américaines. Le processus de remplacement par une autre société est en cours, dit-on à Téhéran. Pas de commentaire chez Total pour l'instant.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Si vous êtes fumeur, bientôt, il n'y a plus que votre buraliste qui vous accueillera les bras ouverts. Les tarifs de certains paquets de cigarettes augmentent à nouveau aujourd'hui, pas les principales marques. Les tarifs vont désormais de 7,60 € à 9,30 €. Et la lutte contre le tabagisme passe aussi par cette hausse des prix, mais encore par une multiplication des interdits, même dans des lieux au grand air. Interdit de fumer dans 6 parcs parisiens cet été, c'est un test. Et les plages sans fumeurs se multiplient elles aussi. Reportage à La Ciotat, Caroline Pomès, la mesure est en place depuis 7 ans maintenant. Est-elle respectée ?
Sous le panneau non fumeur, un petit groupe de femmes tire sur leur cigarette à l'ombre d'un pin.
J'ai pris un bain en sortant, je me suis allumé une cigarette et un bonhomme qui est à peut-être 3 mètres, 4 mètres de moi, il vient vers moi et puis me dit la cigarette me dérange.
Kéra n'a pas rouspété.
Donc j'ai dit ok, pas de souci, je suis monté et puis je fume ma cigarette ici.
Mais cette locale n'est pas la seule à ignorer le panneau. Dans le sable, les enfants font encore quelques trouvailles.
Là, juste maintenant, il y en a encore qui traînent dans le sable et les petits s'amusent avec quoi. Eh ben, ils mettent les mégots à la bouche, ils jouent avec.
Voilà, c'est mieux pour la santé des enfants et des adultes. Cette famille de Marseille vient exprès à La Ciotat pour la couleur de l'eau, mais surtout pour éviter l'odeur du tabac.
Pour le pique-nique et tout ça, c'est vraiment beaucoup plus agréable de manger avec le soleil et l'odeur de la mer que des odeurs de cigarettes. C'est le côté agréable de La Ciotat, il n'y a pas de cigarettes.
Et les non-fumeurs comme Elisabeth devraient être ravis puisque le phénomène plage sans tabac s'étend de plus en plus. Bandol s'y est mis cet été. Même Marseille y penserait selon la Ligue contre le cancer, alors qu'il y a quelques années, c'était hors de question.
Une cinquantaine de plages en France sont désormais labellisées sans tabac par la Ligue contre le cancer. Les prix du tabac augmentent et il est de plus en plus cher aussi ce tabac aux yeux des voleurs. L'équivalent d'1 million d'euros en cigarettes dérobées la nuit dernière. Deux camions d'une entreprise de transport de Thoiry-sur-Loire près de Nantes dont les cadenas ont été forcés. Et combien pour vivre chaque mois quand on est étudiant? Une fois touché les bourses, les APL et autres aides, eh bien il faut encore dépenser près de 850 euros. 837,72 précisément. Le calcul est réalisé par le syndicat étudiant UNEF à quelques semaines de la rentrée universitaire. Syndicat qui dresse donc son bilan du coût de la rentrée universitaire. Écoutons Lila Lebas, la présidente de l'UNEF.
On voit une précarité grandissante chez les étudiants pour l'année universitaire prochaine, avec un coût de la vie qui augmente de plus de 2% pour plus de 56% des étudiants, c'est-à-dire plus fortement que l'inflation aujourd'hui. Il y a des postes de dépenses qui sont importants, c'est le logement et le transport, qui augmentent dans beaucoup de villes universitaires. Notamment, on voit qu'il y a 8 villes universitaires qui représentent près de 30% des étudiants qui augmentent ces deux postes de dépenses, comme Lille, Nantes, Toulouse et Lyon, par exemple. Mais c'est aussi dû à un système d'aide sociale qui est à bout de souffle, avec un gouvernement qui fait le choix de geler le système de bourse, mais aussi des aides au logement cette année, après une baisse de 5 euros l'année dernière. Et donc, c'est les conditions de vie qui vont être de plus en plus compliquées pour les jeunes dans l'année universitaire qui s'ouvre prochainement.
La présidente de l'UNEF avec Mariam El-Kurdi pour France Inter. En 3 semaines, c'est le 2e incendie aux conséquences très sérieuses à Aubervilliers, cette commune pauvre près de Paris. 3 enfants et leur maman enceinte avaient péri fin juillet. Cette fois-ci, 7 personnes sont sérieusement touchées. Le pronostic vital est engagé pour une femme. Reportage après cet incendie, Benjamin Hilly.
C'est là que ça a brûlé ?
Et oui, c'est là que ça a brûlé. La rue du Landy, centre-ville d'Aubervilliers, un petit immeuble de 2 étages à l'angle avec une épicerie au rez-de-chaussée qui a été épargnée par les flammes, mais les dégâts sont visibles au niveau des fenêtres des étages supérieurs. Fenêtres noircies, un trou dans le toit également, le toit qui a en partie brûlé. Bonjour.
Widet.
Widet.
Ouais.
Elle est d'origine tunisienne. Vous étiez là hier soir, vous avez vu ?
Oui, j'étais en bas, j'habite juste en face. Vers 18h40, j'attends le bus. Il y a une chose qui l'a claqué. Je ne sais pas c'est quoi.
Comme une explosion.
Voilà. Et après, la petite, elle s'est mise à crier. Il y a 3 jeunes qui sont montés. 3 Renois et 1 Algérien qui sont montés. Ils ont sauvé 1 monsieur, 2 enfants et la petite fille.
C'était avant que les pompiers arrivent ?
C'était avant.
Vous habitez en face, votre immeuble, c'est comment à l'intérieur? Est-ce que c'est vétuste aussi?
Je te raconte même pas. Il n'y a pas le chauffage, il n'y a rien. On paye 560 euros, mais chaque mois on paye.
C'est un logement privé?
Oui, c'est dangereux. C'est dangereux. Comment on habite là? Franchement, c'est trop dangereux.
À Aubervilliers, Laurent Lucas, Benjamin Hilly, France Inter.
Voilà pour ce reportage, un mot d'actualité politique avant de retrouver Sophie Becherel. Comme promis, la statue du commandeur François Hollande n'ira pas à l'université d'été du PS à La Rochelle, université Nouvelle Mouture. C'est ce qu'indique son entourage aujourd'hui. Les progrès de la robotique rendent ce sujet un peu plus important au fil des années. Le sujet des relations entre eux. Et nous, est-ce que les robots nous influencent? Est-ce que la présence de robots face à nous change notre comportement? Eh bien Sophie, à cette question, de nouvelles études répondent oui.
Un robot méchant a une influence sur les capacités d'attention. C'est en effet ce que montre l'étude menée au laboratoire de psychologie sociale et cognitive de l'université de Clermont-Ferrand. 60 étudiants ont été soumis au test Stroop, un test d'attention bien connu en psychologie. Les volontaires ont subi le test seul, en présence du robot quand il était bienveillant, et enfin en présence du robot programmé pour être imprévisible et sarcastique, bref, antipathique. Résultat, c'est dans ce dernier cas que les performances sont les meilleures. L'influence de la machine est donc réelle. Un comble quand on sait qu'on est en train de généraliser la présence des robots dans les écoles. Justement, c'est tout l'intérêt de ces études. Jusqu'ici, les fabricants rendent sympathiques leurs machines pour susciter notre empathie, et ça marche. Mais les études montrent que nos réactions vont au-delà. Des chercheurs britanniques de l'université de Plymouth ont mis des enfants de 7 à 9 ans en présence du petit robot androïde Nao. Les enfants devaient comparer la longueur de 4 lignes. Seuls, 87% d'entre eux ont donné la bonne réponse. En présence du robot, il n'était plus que 75%. Pire, quand le robot se trompait, les enfants, 3 fois sur 4, faisaient la même erreur que lui. En fait, ils copiaient le robot parce qu'ils étaient influencés. Les adultes sont-ils aussi malléables? L'apparence, la voix, la mobilité du robot, sa réaction aux stimuli, tout cela modifie son statut social et par là, nos réactions. On n'a pas fini de les explorer et d'en être étonné.
Vous m'avez fichu la trouille avec votre robot méchant. L'homme progresse dans sa connaissance des robots et il réinvente la roue aussi. merci Sophie. Ça, c'est à lire sur franceinter.fr. Tous les nouveaux modes de déplacement, la trottinette électrique, les déclinaisons du skateboard, la planche à roulettes, le mountain board à cheville. Pour les détails, tapez sur un moteur de recherche franceinter.fr et l'homme réinventa la roue. C'est assez passionnant. En football, après deux journées de championnat, devinez qui est en tête avec deux victoires, le PSG bien sûr, mais trois petites équipes aussi, Dijon et les deux promus de l'année, Reims et Nîmes. Nîmes, auteur du premier coup d'éclat de la saison, une victoire 3-1 face à l'OM hier soir. L'OM avait pourtant aligné ses trois champions du monde, Mandanda, Rami, Thauvin. Mais hier soir, au stade des Costières à Nîmes, Tony Séliès, on était en droit de chambrer. Et ils sont où? Et ils sont où les Marseillais?
Ce refrain, les joueurs de l'OM l'ont entendu à plusieurs reprises hier soir aux Costières. Les supporters nîmois ne se sont pas fait prier. C'est une bonne question et la réponse c'est que sur ce match, ils étaient surtout aux abonnés absents, transparents dans les duels, leur entraîneur Rudy Garcia.
Il y a bien longtemps qu'on n'a pas été aussi mauvais surtout, ouais, qu'on a fait un match sans comme celui-là.
Dans l'effectif, il est l'un des rares à avoir assumé face aux caméras, mais forcément Dimitri Payet, le capitaine, lui aussi a les mâchoires serrées.
On a perdu, forcément je suis énervé.
De la colère, mais pas de panique, ce n'est que la deuxième journée de championnat, mais quand même, voilà un bel avertissement pour les coéquipiers de Bounassar.
C'est un match qui va nous servir de leçon pendant cette saison. Dans l'engagement, dans l'entame de match, dans beaucoup de choses, il nous a manqué beaucoup d'ingrédients ce soir pour gagner ce match. Donc voilà, il va surtout falloir les aborder différemment.
C'est donc bel et bien dans la tête que l'OM a flanché. Nul doute que Rudy Garcia saura très vite le remettre à l'endroit. Une bonne séance vidéo devrait remettre assez facilement tout le monde à sa place.
Bon d'accord, et dans la série, les gros ne vont pas bien. Parmi les équipes à 0 point après deux journées, il y a Nantes et Bordeaux. La France va-t-elle être à nouveau championne du monde? C'est toujours du football, mais chez les filles, moins de 20 ans, demi-finale du mondial ce soir à Vannes, France-Espagne. Et puis en tennis, à une semaine de l'US Open, les vieux lions ont faim. Novak Djokovic a battu hier Roger Federer en finale du tournoi de Cincinnati. La météo, c'est plutôt pas mal, Élodie Calac.
On commence par le soleil bien installé sur la moitié sud, la Franche-Comté et l'Alsace. Avec un bémol en Corse, on attend des averses orageuses sur le relief et l'ouest de l'île. Bémol aussi sur les Alpes, où là, quelques orages sont possibles. Comptez 25 degrés à Biarritz, 31 à Mulhouse, 32 à Lyon, à Toulouse, 34 à Perpignan et 35 à Nîmes. En allant vers le nord, c'est plus nuageux. On retrouve des éclaircies, mais ça reste bien chargé sur la Bretagne, le Cotentin, sur le nord, sur Champagne-Ardenne aussi. On attend 22 degrés à Brest et à Deauville, 25 à Lille, 27 à Nancy, 28 à Paris et à Nantes, 30 degrés à Nevers. Demain encore des nuages près de la Manche, mais plus de soleil ailleurs.